Cette émission vous est offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sicavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir dans cette émission Club de la Presse qui s'anime de lundi à vendredi à partir de 11h sur votre radio La Nouvelle Génération. Nous y sommes. Merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée. Pour la rentrée prochaine qui s'effectuera dans quelques jours, le gouvernement togolais effectue une réforme majeure dans le système éducatif. Désormais, les CM auront deux enseignants, maîtres de sciences et celui de lettres. À compter de cette rentrée, il y aura deux types d'enseignants au primaire. Un enseignant polyvalent du CP1 au CE2 qui sera chargé de toutes les disciplines. Et cet enseignant est celui alors qui a d'autres diplômes à part le bac A4 ou D. À partir alors de CM1 et au CM2, on aura deux enseignants spécialisés. Enseignants qui a bac A4 se charge alors des matières littéraire et celui alors du bac des matières scientifiques. Ils passeront dans les deux classes à titre rotatif comme au secondaire. Le sujet nous intéresse au Club de la Presse et nous allons l'aborder bien sûr dans cette émission et nous parlerons d'autres sujets liés à l'actualité tels qu'évoqués par des journaux parus aujourd'hui dans cette émission Club de la Presse de ce vendredi 12 septembre 2025. Bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Kiki Sosa assure la mise en onde. Jérôme Dakoutse est à la mise en ligne. Je suis Pascal Osso au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul, nous sommes à Bassa, Sama FM à Baga près de Niamtougou, et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Et là, vous comprenez que nous couvrons tout le Togo avec cette émission Club de la Presse. Et merci pour votre fidélité. Vous avez aussi ce privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook, sans oublier notre site internet www.canalfm.com et aussi nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays. Et c'est avec mes confrères journalistes en studio, avec moi aussi des invités, bien sûr. Confrères journalistes en studio, Gervais Pouli, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous les auditeurs de Canal FM.
Vous avez bravé la pluie là.
Oui, oui, ça va, mais ça fait du bien.
Ça fait du bien, merci, surtout pour cette fidélité et cette confiance, surtout, merci.
Merci, merci pour l'invitation. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on vient échanger au club.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Gabé Ndiaro, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à toutes les auditrices et aux auditeurs de la meilleure radio de la capitale, Canal FM. Lomé est arrosé ce matin, ça veut dire que non, le week-end sera... très bon, parce que bon, avec cette pluie, la fraîcheur et tout, je pense que c'est de bon augure pour un merveilleux week-end quand même. Donc, bon début de week-end à tous les Togolais, à toutes les Togolaises, et que Dieu bénisse ce beau pays. Et
justement, que Dieu bénisse ce beau pays. Merci d'avoir accepté notre invitation. Gabé Ndiaro, je rappelle que vous êtes juriste et aussi analyste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, quand vous parlez alors de pluie, oui, c'est aussi une bénédiction, hein.
Ah oui.
Au-delà de la bénédiction, des fois aussi avec quand les gens se sentent mouillés, ça devient autre chose. Firmin Tekouagbo ne me dira pas le contraire. Firmin, bonjour.
Bonjour Pascal, merci de m'avoir invité.
J'espère que vous allez bien.
Ouais, je suis tout mouillé. Ouais, je suis tout mouillé. Ne pas venir, ça signifierait simplement que je ne suis pas journaliste. Parce que la première règle qu'on nous apprend en journalisme, quelles que soient les conditions naturelles, vous devez être présent au bureau. Vous imaginez que j'aurai journal à 7h du matin. Et avec cette pluie, que j'ai moto ou pas, que j'ai une voiture ou pas, les auditeurs ne doivent pas le sentir. Donc, il s'attendra à ce que moi, je les serve.
Mais ce qui est sûr, vous n'êtes pas moins mouillé que moi.
Bien évidemment. Alors, vous imaginez, vous ne serez pas là aujourd'hui, hein, alors que nous, on vient.
Puisque, donc, justement, le devoir nous appelle à 11h, vous devez être à l'antenne.
À l'antenne, parce qu'il y a beaucoup qui sont câblés, donc il faut qu'on les respecte. Donc, c'est un engagement, c'est un contrat auquel nous avons souscrit. Donc, nous devons être présents. Donc, merci de m'avoir invité. Merci de me faire cet honneur de m'exprimer encore et de dire quelque chose par rapport à l'actualité. Bon, je dis, vous n'avez pas de bénédiction. Moi, je dis, comme la Bible dit, qu'avons-nous qui ne viennent de Dieu. Donc, nous sommes venus pour partager avec ceux qui nous écoutent ce que nous avons reçu de Dieu.
Merci beaucoup, Fimet Kouagbo. Vous êtes chroniqueur, journaliste, bien sûr, chroniqueur. Et merci d'avoir accepté notre invitation.
Évangéliste à 16 heures perdues, peut-être.
Je n'aime pas sérieux, toi.
Non, puisque il n'y a quand même pas de propos où vous, quand vous tenez des propos, vous citez toujours la Bible. Donc, je pense qu'il a raison.
Hein. Ouais, il a raison. J'aime pour lui qui m'en inspire souvent.
Ah, vous imaginez. C'est l'apôtre.
Oui, c'est l'apôtre. C'est l'apôtre du jour.
Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Hein. Nous avons des invités. Monsieur Kodjovi Zissou, bonjour.
Bonjour.
J'espère que vous allez bien.
Je vais très bien et merci de nous accueillir dans votre studio.
Merci, c'est un plaisir. Madame Roberta et Gigenti, pardon. Bonjour.
Oui, bonjour. Merci
que vous
pour l'invitation.
Bien.
Oui, ouais. Je vais très bien avec la pluie, comme vous avez dit.
Justement,
c'est bien.
Vous avez bravé la pluie aussi.
Ah, bien sûr. Je suis mouillée aussi. On est mouillé. Voilà.
Justement, on est mouillé. C'est ça. Alors, oui, monsieur Zissou, c'est le proviseur de CISL, Canadian International School of Lomé. Et justement, nous allons parler alors de cette école dans cette émission. Et oui, quand on prend justement Canadian International School of Lomé, d'abord, qu'est-ce que c'est? Justement, on sait que c'est une école, mais finalement, qu'est-ce qu'on doit savoir alors de cette école, monsieur Zissou?
Encore une fois, merci et bonjour aux auditeurs. Alors, le CISL, le Canadian International School of Lomé, c'est une école qui va de la maternelle en terminale et qui dessert deux programmes. C'est une école qui existe depuis 10 ans. Ça commence à la maternelle, ça se termine soit avec le bac français délivré par l'Académie de Nantes, dont nous faisons partie, ou soit le bac canadien qui s'appelle le DESO, le diplôme d'études secondaires d'Ontario, qui est l'équivalent du bac français. Alors, la particularité, c'est que depuis la maternelle de cette école, la maternelle et le primaire, les enfants sont bilingues. Quand je parle de bilinguisme, c'est un vrai bilinguisme. Ils étudient, parlent, écrivent, réfléchissent dans les deux langues à la fois, dans la même classe. Et c'est la même chose également au primaire. Et à partir de la classe de 6e, on opère un choix. Soit on va dans le programme canadien où tout est en anglais, jusqu'en classe de terminale, qui est le grade 12, ou on opte pour le programme français, où tout est en français jusqu'au bac qu'on passe au lycée français de Lomé. Voilà en grosso modo ce que je peux ramasser sur l'école.
Et sur l'école, bien sûr, c'est voilà. Ce que vous pouvez ramasser. Oui, mais pour ce qui concerne alors le programme bilinguisme, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce programme?
Bon, on va aller un peu plus dans les détails.
Tout à fait.
Vous prenez une classe de maternelle, n'importe laquelle, quelle que soit la petite section, la moyenne ou la grande section, ou que ce soit le CP, le CE, vous avez deux enseignants dans la même classe. Il y a un enseignant qui dispense son cours en français et il y a un autre enseignant qui reprend la même chose en anglais.
Donc, c'est-à-dire depuis le cours primaire?
Depuis la maternelle.
La maternelle?
Voilà. Donc les lundis, par exemple, c'est le programme français. Les mardis, c'est le programme anglais. Le mercredi, c'est un mélange des deux, etc. jusqu'à la fin. Donc tout ce que les enfants apprennent en français, ils apprennent également en anglais. Et donc, ils passent d'une langue à une autre sans aucun problème. Voilà ce qui les prépare et les prédispose à aborder les études à partir du collège de façon plus facile par rapport aux langues, bien sûr.
Voilà à peu près.
Mmh, c'est comme ça que ça se passe. Hein, voilà. Je... mais c'est quoi l'opportunité que votre école offre à ses étudiants?
Voilà. Comme nous passons deux bacs, le bac français et le bac canadien, on a mis ces deux langues-là depuis la maternelle pour faciliter la chose aux enfants, non seulement à partir du collège et du lycée, mais aussi pour les prédisposer aux études d'université plus tard. Puisque ceux qui vont choisir le bac canadien, en plus d'aller dans n'importe quel pays, une fois qu'ils vont se retrouver dans des universités de pays anglophones, ils peuvent faire leurs études sans aucun souci, vu qu'ils ont fait anglais depuis la maternelle. Idem pour ceux qui vont faire le bac français. Donc, quand ils vont se retrouver dans des pays francophones, ce sera une suite logique pour eux. Conclusion, il vaut mieux préparer les enfants dès le bas âge à ces deux langues. En plus de ce que au collège, d'autres langues viendront s'ajouter, à savoir l'allemand, l'espagnol, le russe, le chinois et l'italien dont on va parler Roberta tout à l'heure.
D'accord. Voilà. Roberta, rebonjour.
Rebonjour.
Alors, c'est vrai que vous êtes professeur de langue italienne à cette école. Et justement, comment ça se passe souvent avec les étudiants ou les élèves?
Alors, premièrement, je voudrais justement, comme le proviseur vient de dire, introduire un peu les sujets, parce que la langue italienne, c'est vraiment, je peux dire, une nouveauté à Lomé, à l'école canadienne. Moi, je suis au Togo il y a 10 ans. Je suis la directrice également de la Casa Italiana, un centre culturel italien à Lomé, basé à Lomé il y a 10 ans. Et je suis très contente, très reconnaissante envers l'école canadienne parce que c'est la première école à Lomé, au Togo, je peux dire, qui a introduit l'italienne chez eux comme LVB. C'est très important. Moi, ça fait 10 ans que je l'ai dit dans ce pays. L'apprentissage des langues étrangères est très important parce que ça peut vraiment ouvrir beaucoup d'opportunités. Donc, on introduit la langue italienne chez eux à l'école canadienne. On a commencé avec la 6e, 5e, 4e, 3e. Et au fur et à mesure, on ajoutera des classes à partir de l'année prochaine. L'objectif final... c'est d'amener les élèves en terminale qui puissent composer une partie de leur bac en italien. Et après les études, comme le proviseur vient de dire, bien sûr, ils auront déjà l'opportunité d'étudier en anglais, en français, mais voilà qu'ils pourront aussi étudier en italien. Donc, l'opportunité que l'école canadienne va proposer aux élèves, c'est de pouvoir continuer les études en Italie. Donc, dans les universités italiennes, qui proposent quand même des avantages, beaucoup d'avantages. Et donc, moi, je serai là avec eux pour ces grands projets. En plus, il y aura un partenariat entre l'école canadienne et des écoles italiennes, notamment des lycées italiennes ou des collèges, bon, on verra bien, pour organiser des voyages. D'échanges aussi entre les étudiants italiens et les étudiants togolais en termes linguistiques, culturels, et aussi l'organisation d'un voyage des étudiants, des élèves de l'école canadienne qui pourront passer une période en Italie et suivre des cours et visiter et connaître la culture italienne.
Mmh. Alors, aujourd'hui, c'est quoi les innovations? C'est vrai que vous avez touché quelques-unes de ces innovations tout de suite et des opportunités hein, que vous offrez alors à ces étudiants. Monsieur Zissou, vous voudriez bien quand même nous parler alors de ces innovations?
Alors, les innovations, il y en a de tous ordres. Au CISL, il y en a sur le plan pédagogique, il y en a sur le plan culturel, etc. etc. Bon, on va prendre le plan pédagogique. Alors, une des nouveautés chez nous, c'est le suivi. C'est-à-dire, vous amenez votre enfant à Canadian International School of Lomé, CISL, quelque chose ne va pas, vous le savez tout de suite. Vous n'attendez pas la fin du trimestre ni du mois pour le savoir. Il y a un logiciel qu'on utilise qui permet par exemple de remonter aux parents en temps réel un exercice non fait ou une mauvaise note que l'enfant veut cacher à son papa. C'est-à-dire le peu d'effectifs qu'on a, puisqu'on est très peu, de la maternelle en terminale, on est 131 élèves. Ça permet de suivre chaque élève là. Et chaque classe tourne autour d'une dizaine d'effectifs. ce qui permet de savoir que telle journée, à tel moment, tel n'a pas pu faire cela et donc il va devoir le faire avant de rentrer. Dans tous les cas, il ne va pas rentrer sans avoir fait ce qu'il a fait par jour. Secondo, dès que quelque chose ne va pas, nous déclenchons ce qu'on appelle l'accompagnement. Ça consiste à venir aux élèves en difficulté de façon personnalisée, sans le rendre dépendant des cours que nous appelons d'habitude des cours privés qui coûtent trop cher aux parents. Alors, sur un autre plan, les nouveautés au CISL, tout à l'heure d'ailleurs à midi, on sera en visioconférence avec un de nos partenaires en Russie. On en a plein, on en a en Allemagne, en Espagne, en Russe et en Chine. Donc tout à l'heure, on sera en relation avec un qui s'appelle l'école première de Russie, où nos élèves étaient en février passé. Ils ont passé 2 semaines là-bas, puisqu'il y a certains qui projettent aller faire leurs études universitaires en Russie. Donc ils sont allés découvrir les universités, prendre le pouls sur le terrain. Ce qui fait que dans chaque congé, nous organisons un voyage vers un pays de cette façon. En février prochain, ce sera à Granada, en Italie. Et voilà, en juin, certainement, ce sera l'Italie. Voilà. Et sur un autre plan, ça permet aux enfants d'aller s'ouvrir l'esprit, de découvrir le monde autre que ce qu'ils ont ici. Et une fois rentrés, les enfants ne sont plus les mêmes. Alors, d'autres opportunités, prenons le cas canadien. Vous pouvez décider de faire, par exemple, votre classe de terminale, qu'on appelle le grade 12 dans le programme canadien. Vous le faites premier trimestre à Lomé. Vous pouvez décider, si vous avez les moyens d'aller faire le deuxième trimestre au Canada et revenir faire le troisième trimestre à Lomé. Et
là, si vous avez justement les moyens.
Ça ne tient qu'à vous. Alors, autre avantage. Ici, chez nous, au Canadian School, quand vous inscrivez votre enfant au programme canadien, vous retrouvez son inscription, son numéro matricule au ministère, dans les registres du ministère de l'Éducation au Canada. Ce qui fait qu'au moment du départ, on vous considère déjà comme quelqu'un qui a étudié au Canada et vous bénéficiez de tous les avantages des natifs canadiens. Et donc, ça vous facilite un certain nombre de choses, notamment au niveau de la durée de l'obtention de la nationalité, où vous avez droit à des heures de travail jusqu'à 20 heures par semaine, parce que vous êtes passé par le Canadian School, qui a un partenariat avec Kaigulba School de l'Ontario. Il y en a plein, on peut parler des heures, des avantages de Canadian School.
Voilà. D'accord. Oui, Roberta, finalement, quand on apprend aujourd'hui l'italien ou la langue italienne, c'est quoi l'opportunité qu'on peut avoir avec cette langue?
Oui, comme je viens d'expliquer, l'opportunité, disons, la plus intéressante pour les étudiants togolais, c'est de continuer les études en Italie, au niveau universitaire, au niveau licence ou master. Donc, les grands avantages des universités italiennes, c'est la bourse d'études, parce que les universités italiennes offrent des bourses d'études chaque année à leurs étudiants, de default, en fait. Genre, quand tu es dans les systèmes, tu arrives là-bas et tu demandes la bourse à la région où ton université se trouve. Donc, moi-même, quand j'ai fait mes études en Italie, j'ai eu la bourse chaque année. Et tous les étudiants togolais que j'ai suivis, la plupart ont la bourse chaque année. C'est des bourses consistantes, hein. On parle de 3 500 000 par an. Bon, c'est vrai que la vie là-bas est plus chère, mais ça permet quand même d'être à l'aise, de faire ses études à l'aise. Des fois, ils ont aussi la résidence universitaire, la cantine, une fois par jour. Donc, ils ont vraiment des conditions très, très favorables. Bon, sans parler de la qualité de l'enseignement, de la qualité de certaines universités italiennes.
D'accord. Monsieur Zissou, nous sommes presque à la fin lors de cet entretien. Si vous avez un mot de la fin, surtout pour les inscriptions, comment procéder à ces inscriptions, et si vous avez un appel à lancer aux parents actuellement, qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
Alors, le premier mot serait le suivi chez nous. Il est vraiment particulier. Chez nous, tout est fait pour que chaque enfant réussisse. D'ailleurs, le mot d'ordre est de ne laisser personne sur le carreau.
Le carreau.
Ce qui fait qu'une fois que vous franchissez les portes de nos installations, il est très, très, très difficile que votre enfant échoue. puisque c'est personnalisé l'accompagnement. Donc, si j'ai un mot à lancer aux parents, c'est de venir essayer. Voilà, c'est de venir essayer au Canadian School. Nous avons encore de la place jusqu'au 25 septembre au moins.
Et c'est des places qui sont limitées, c'est ça?
Effectivement, les places sont limitées. Ça veut dire que nous n'avons même pas encore atteint les 10-12 par classe. Donc, on reçoit encore jusqu'au 25 au moins, même si les cours ont déjà démarré depuis lundi passé. Mmh. Voilà.
Merci beaucoup, Monsieur Zissou Kodzovi, d'être passé alors dans cette émission. Je rappelle que vous êtes le proviseur de CISL, c'est-à-dire Canadian International School of Lomé. Merci d'être passé, Madame Roberta Gentil. Merci d'être passé dans cette émission. Vous êtes professeur de langue italienne, bien sûr, à l'école canadienne. Merci d'être passé pour toutes ces explications. Ça nous fait plaisir de vous avoir.
C'est nous qui vous remercions.
Merci
encore aux auditeurs.
D'accord, merci de nous avoir bien sûr donné ces explications sur justement ces propos. Alors oui, chers confrères, bonjour. Et là, nous allons recevoir justement nos amis alors de l'hôpital éphémère. Ça, c'est l'hôpital éphémère qui se déroule bien sûr à CTF. Justement, ils ont quelques mots à placer par rapport justement à cet hôpital pardon éphémère avec des maladies chroniques. Il y a Monsieur Folie Edem. Bonjour.
Bonjour. Oui, bonjour.
Et j'espère que vous allez bien. Monsieur Atsoubé Kodovi, bonjour.
Oui, bonjour.
D'accord. Ok. Vous êtes délégué médical, bien sûr. Je parlais alors de cet hôpital éphémère. Et là, justement, ça se déroule. C'est la première fois, bien sûr, que ça se déroule. Alors, au CTF, ici, à Togo 2000. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est?
Oui, c'est le premier salon de la santé et du bien-être qui est organisé au CTF. Donc, c'est une plateforme qui regroupe un certain nombre d'acteurs du domaine de la santé et qui a pour objectif d'informer la population sur l'existence d'un certain nombre de dispositions dans notre pays pour la prise en charge sanitaire. Donc, ça regroupe plusieurs acteurs, des hôpitaux, des organismes au niveau international, etc., qui sont tous réunis. Mmh. Et comme vous l'avez dit tantôt, il y a également une consultation gratuite qui est effectuée durant toute la durée de ce salon. Au niveau du CTF.
Alors, c'est vrai que sur le coup, on parle également de pathologies chroniques. Hein, justement, en tant que déjà des gens quand même qui ne connaissent pas assez de choses hein, dans le domaine, qu'est-ce que c'est? Quand on parle alors de pathologies chroniques, quels en sont même d'ailleurs ces défis?
Oui, quand on parle de pathologies chroniques, c'est une maladie de longue durée. Souvent évolutive, c'est-à-dire ça commence un peu, ça évolue et puis finalement ça s'installe. Et c'est une maladie qui a besoin d'un suivi médical régulier. Donc la majorité de nous tous, on connaît l'hypertension. On sait que quand vous avez l'hypertension, il faut prendre des médicaments régulièrement pour faire un suivi de la tension artérielle, etc. Il y a le diabète. Ces deux, par exemple, ce sont des maladies du métabolisme. Voilà. Et il y a également d'autres pathologies qui sont chroniques et qui nécessitent un suivi régulier par les médecins.
C'est vrai que vous mettez l'accent souvent sur la formation médicale. Quand on parle alors de la formation médicale, qu'est-ce que c'est?
Voilà, donc nous, en tant que délégué médical, notre structure Hospitality NT se charge d'informer les médecins sur les nouvelles thérapies disponibles sur le terrain, sur le plan médical. Et surtout, nous sommes en homéopathie et nous travaillons en fait avec deux laboratoires allemands. Donc, nous visitons les médecins sur toute l'étendue du territoire, de Lomé jusqu'à Saint-Cassé, pour les former à l'utilisation des produits homéopathiques que nous faisons, que les deux laboratoires nous mettent à disposition ici au pays.
Parlons de toujours alors de la pathologie chronique, finalement, qu'est-ce que le citoyen lambda doit connaître alors sur ces pathologies chroniques?
Oui, vous savez, la pathologie chronique, déjà, c'est une pathologie qu'il faut accepter. Malheureusement, dans notre travail, on a rencontré des cas où des patients n'ont pas accepté de devoir prendre des produits à vie. Et ça, c'est dommage. Ça va faire qu'ils vont avoir des complications qui vont les emporter plus tôt que prévu. Voilà. Du coup, le médecin ou les centres de santé nous encourageons la population à se rendre là-bas quand ils ont des soucis de santé. Ne minimisez pas du tout vos symptômes. Quand vous sentez que vous avez mal, ne dites pas « Ok, c'est la fatigue, c'est juste ça ». Non, consultez-vous, un médecin vous pose un diagnostic, on vous suit et vous êtes tranquille. Sinon, après, qu'est-ce qui se passe? On découvre une pathologie à un stade très avancé et peut-être ça commence par vous invalider. Après, si vous êtes chef de famille, c'est le poids qui va rester sur la femme. Et si vous devenez invalide, c'est les enfants qui vont devoir subir également les séquelles. Donc, bref, ce n'est pas intéressant. Hospitality NT, nous avons vu qu'il y a un défi dans le domaine de la santé par rapport à la prise en charge d'un certain nombre de pathologies.
Et qu'est-ce que vous proposez?
Justement, les deux laboratoires cités tout de suite par M. Atiogbe, ils sont dans la pointe de l'homéopathie. Nous n'allons pas rentrer dans les termes techniques, mais l'homéopathie, c'est une méthode de traitement qui se base sur la loi des similitudes. Ça a été évoqué premièrement par Hippocrate, qui est le père de la médecine. Il a dit « Certaines substances peuvent causer les mêmes maladies que les mêmes substances peuvent traiter. » Du coup, c'est Samuel Hahnemann, un médecin allemand né en Sasse, qui a finalement fait des travaux beaucoup plus évolués sur cette thérapeutique. Donc, le principe, c'est traiter une maladie par une substance naturelle, minérale ou autre, qui peut à forte dose causer les mêmes symptômes que cause cette maladie. Du coup, la substance, elle est diluée énormément jusqu'à perdre toute sa toxicité. Et ce qui fait de ce genre de médicaments, des médicaments inoffensifs pour la majeure partie des personnes, est très toléré, apprécié souvent pour le traitement des enfants, etc. en Occident. Du coup, cette solution, nous l'apportons aux médecins. Ils font déjà beaucoup avec les produits, les médicaments chimiques. C'est bien d'avoir également cet outil complémentaire afin de mieux prendre en charge les cas qui récidivent ou bien qui ne répondent pas positivement au traitement habituel. Donc, nous parlons souvent d'un de nos médicaments très connu par beaucoup de praticiens, Apohépat, qui est recommandé dans la prise en charge des pathologies hépatiques. Donc, les médecins, quand ils posent un diagnostic et ils trouvent l'intérêt de ce médicament, ils peuvent mettre les patients là-dessus. C'est disponible uniquement dans les pharmacies. Le pharmacien également peut conseiller ce genre de médicament selon le cas qui se présente devant lui. Et là, les populations prennent, ils sont suivis par les médecins. Et si Dieu le veut, ils peuvent avoir de bons résultats.
Monsieur Toubé, oui, qu'est-ce que vous avez à ajouter?
Voilà, donc j'aimerais encourager toute la population togolaise à visiter cette fois. Et nous aimerions saisir également cette occasion pour quand même remercier le ministère de la Santé, en collaboration avec le ministère du Commerce, avec la direction de CETEF, qui ont organisé ensemble cet événement pour nous permettre de mieux s'informer sur le plan médical pour détecter toutes ces maladies qui peuvent normalement nous coûter la vie. Et nous invitons tout le monde à tout faire pour assister à cette foire et visiter les stands, s'informer sur leur état de santé, se faire consulter, puisque le collègue vient de dire tout à l'heure que les consultations sont gratuites. Donc, nous finissons dimanche. Donc, si possible, que tout le monde arrange son programme pour ne passer que peut-être 15 minutes, voire 30 minutes sur ces stands-là pour s'informer.
Justement, puisque c'est le salon qui se déroule, bien sûr, là-bas. Il y a un salon à l'heure du bien-être et c'est, comme on le dit, c'est l'hôpital éphémère. Hein. Vous pouvez venir alors et pour des consultations gratuites. Merci d'être passé dans cette émission. Monsieur Folly, un mot pour finir cet entretien.
Oui, j'aimerais déjà vous remercier pour le travail que vous faites. Je me suis permis d'écouter les conversations qui ont eu lieu avant et vraiment, tous ici, vous êtes des journalistes qui avaient bravé la pluie pour venir. C'est pas évident. Surtout ici, tout le monde n'a pas cette culture. C'est à louer, c'est à féliciter, c'est du professionnalisme. On vous tire chapeau et on vous encourage à continuer. Donc, comme mon collègue l'a dit tout de suite, la population, passez vous informer. Informez-vous, c'est gratuit. Passez vous informer et puis au moment opportun, posez les bons actes qui vont vous sauver, qui vont protéger vos familles, etc.
D'accord, merci beaucoup M. Folly, Folly Eden et M. Atiogbe, merci aussi d'être passé, M. Atiogbe Kodzoui, merci d'être passé alors dans cette émission.
Merci à vous d'aller.
Voilà, chers confrères, nous allons aborder notre premier sujet dans cette émission. J'aimerais, c'est vrai, nous avons écouté tout de suite l'école canadienne qui proposait justement un certain nombre d'avantages pour l'école, pour nos élèves ou du moins
nos apprenants. Mais il y a aussi la rentrée scolaire. Et on sait que la rentrée scolaire, c'est le 15 prochain. Et cette rentrée scolaire, comme je le disais dans mes mots introductifs, il y a cette réforme majeure qui sera introduite. Alors, dans le système éducatif, désormais, les CM auront deux enseignants. Il y a maître de sciences et celui alors de lettres. Et à compter alors de cette rentrée, il y aura deux types d'enseignants au primaire. Un enseignant polyvalent du CP1 au CE2 et qui sera chargé de toutes les disciplines. Et cet enseignant est celui qui a d'autres diplômes à part le bac A4 ou D. C'est vrai, depuis un temps, nous avons commencé par dire qu'il faut aujourd'hui des réformes dans l'enseignement, dans le système éducatif. Et d'aucuns même d'ailleurs demandaient que le système éducatif soit totalement réorienté vers une autre vision. Est-ce que c'est un pas?
Mais c'est un grand pas ce qui est en train de se faire. Et il y a même d'ailleurs plusieurs autres innovations à cette rentrée même. Il y aura l'introduction de l'anglais. Donc, au primaire, les élèves vont commencer l'anglais. L'année dernière, il y a une phase pilote dans certains établissements et cette année, ça va s'étendre un peu sur d'autres. Et nous venons d'apprendre, donc, avec le renforcement du dispositif au niveau du primaire, deux enseignants, donc, pour chaque classe, un enseignant pour les matières scientifiques, un autre enseignant pour les lettres, et donc ce qui amène le personnel à être bien formé. Vous avez parlé d'un enseignant polyvalent d'ailleurs qui va dans un premier temps travailler avant qu'à partir de CM, on ait les deux enseignants à la disposition des élèves. Donc je crois que ce sont des réformes dont on a besoin, ça. Et aujourd'hui, vous savez, on se plaint qu'on forme des jeunes qui arrivent et ils ne sont même pas voulus sur le marché du travail, ou s'ils le sont, ils ne sont pas suffisamment bien formés. Et on a vu la semaine dernière ici avec les IFAD, vous avez reçu donc l'un des responsables qui a parlé de cette réforme là, dont on voit qu'il y a des changements au niveau après le bac. Et il faut aussi commencer tout cela au primaire parce que c'est déjà au bas âge, donc il faut former les enfants. On a aussi parlé de l'entrepreneuriat qui devait commencer aussi par être enseigné comme une matière. Donc tout cela, je crois que les autorités ont essayé de diagnostiquer les causes. Aujourd'hui, on a une jeunesse, n'est pas seulement au Togo, mais on a une jeunesse qui est formée et qui, après la formation, a du mal à s'insérer parce qu'il n'y a pas du boulot qu'on donne. Et il y a de nouveaux secteurs aujourd'hui qui sont en pleine évolution et qui marchent, où on a besoin de personnel. Et donc, il faut pouvoir adapter tout cela aux études. Quand les enfants sortent à la fin, qu'ils puissent être opérationnels, ou soit ils travaillent pour des structures, pour l'État qui engage de moins en moins d'ailleurs, ou soit ils peuvent également créer leurs propres entreprises. On a vu au niveau de l'enseignement technique et professionnel tout ce qui est en train de se faire. Pour moi, c'est une très bonne chose parce qu'on sait, c'est quand on est tout petit qu'on a une grande capacité d'assimilation. C'est au bas âge qu'on peut apprendre beaucoup de choses sans trop s'embrouiller, parce que les enfants ont une mémoire extraordinaire, donc faite pour ça. Et si on laisse le cap du primaire et du collège, ça va être assez difficile de pouvoir imprimer ce savoir-là à ces enfants. Donc on peut que saluer les autorités togolaises, le ministre Cocorico, le ministre de l'Enseignement technique, la formation professionnelle aussi. Donc on les voit de plus en plus sur le terrain et travailler pour que toutes ces réformes-là prennent corps effectivement et qu'elles puissent porter des fruits.
Gabriel Diarro, quelle est votre appréciation de justement ces réformes qui sont introduites dans l'enseignement?
Oui, vous savez, pour nous qui, hein, après le bac, avions un peu exercé quand même dans l'enseignement, on sait à quel point hein, le travail intellectuel fatigue. Enseigner, ce n'est pas chose aisée. Donc, à un moment donné, si l'État prend quand même des mesures pour alléger un tant soit peu la tâche aux enseignants, je pense que c'est une très bonne chose. Et particulièrement ces deux classes, CM1 et CM2, c'est tellement compliqué. Les enseignants font un travail de titan là-bas et donc je pense qu'il faut quand même prendre la disposition pour aider ces enseignants-là. Et là, deux enseignants pour une classe, je pense que c'est déjà une très bonne chose. Les enseignants auront le temps de se consacrer pratiquement à ce qui leur est signifié comme tâche, et donc l'autre aussi va faire ce qu'il faut. Donc moi, je pense que c'est déjà une très bonne chose. Le ministre Cocorico, depuis qu'il est venu à ce poste-là, il apporte des innovations à chaque moment, et on voit que ça apporte des fruits.
Ce que certains observateurs disent, c'est que aujourd'hui, il n'y a pas assez d'enseignants, ou on est en manque alors d'enseignants. Comment se fait-il qu'aujourd'hui on propose cette réforme? Est-ce que ça ne va pas porter en tosse quand même à cela?
Moi, je le dis toujours, en toute chose, il faut poser le premier pas. C'est ça le plus important. Est-ce que le premier pas, ce que le ministre Cocorico veut implémenter, est-ce que c'est une bonne chose? C'est une bonne chose. Alors, il faut accompagner quand même l'État à aller de l'avant. C'est vrai, ça ne sera pas parfait. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Tout de suite là, on ne va pas dire que non, ça sera une réussite à 100%. Mais au moins, on a posé un premier pas et ça va nous permettre de corriger les imperfections, de rembler les trous après. Donc, moi, je pense que, bon, déjà, il y a eu un concours pour les enseignants qui a été lancé, dont les résultats sont déjà proclamés. Ils seront déployés déjà sur le terrain. Je pense que c'est déjà une très bonne chose et il va falloir que l'État continue surtout, bon, je parle de l'État, le sommet, hein, continue quand même par apporter à ce ministère-là pour que, bon, les innovations continuent parce que après tout, la formation des citoyens, c'est quelque chose de très important. Si on veut arriver à un développement de ce pays, il va falloir commencer par la formation. Et je pense que le ministre Cocorico, bon, et Isaac Tchakbé aussi, lui, vient d'arriver tout nouvellement. Mais depuis l'arrivée de ministre Cocorico, on a déjà vu ses pas hein, au niveau de l'université de Lomé, tout ce qu'il a laissé comme héritage à cette université-là. Et aujourd'hui, au niveau du ministère de l'Enseignement, il est en train d'implémenter des projets à chaque moment. Chaque année, il y a des innovations, c'est vrai. Il y a certaines de ces décisions qui peuvent ne pas être aimées. Mais reconnaissons quand même que le monsieur, c'est un bosseur, c'est un travailleur, c'est quelqu'un qui cogite à chaque moment. Il apporte des innovations à son poste. C'est à féliciter vivement que le sommet l'accompagne. Et que aussi l'accompagne, parce que ce n'est pas que l'affaire du ministère, mais aussi ça doit dépendre des parents qui doivent faciliter aussi la tâche quand même à ce ministère-là pour que bon, le travail puisse porter des fruits.
Et Firmin, c'est vrai que la raison principale qui est donnée par rapport à cette réforme, c'est pour alléger un tant soit peu hein, ce qui concerne l'échec, surtout en classe de 6e, et faire une insertion surtout de ces élèves, une bonne transition hein, par rapport à ces élèves pour de CM2 en 6e, parce qu'il semble quand même qu'il y a des soucis pour les élèves là-bas, ce qui fait qu'il y a un échec aussi cuisant.
Moi, je vous ai dit deux choses. Oui, pour répondre à votre question, ouais. Moi, je ne pense pas que ce soit seulement au niveau du 6e, parce que quand les choses ne sont pas maîtrisées au niveau de la classe du 6e, ça veut dire ça a des répercussions sur tout le collège. Ça veut dire que vous ne maîtrisez pas bien la 6e, la 5e, vous aurez des problèmes, la 4e, en 4e, et ainsi de suite. Moi, c'est cette réforme. Je l'appellerai réformette, parce que ce n'est pas une réforme au sens global. Moi, on peut s'en féliciter. Mais moi, je me demande pourquoi on ne s'assoit pas pour réfléchir global. Pour qu'à chaque année, on sort un petit truc, l'année prochaine, on va encore sortir un petit truc.
Ce n'est pas pas à pas qu'on y arrivera?
Oui, la dernière réforme qu'on avait eu à faire sous Gnassingbé et Adema, c'était la réforme de 1975. Et depuis là, il n'y a pas encore. Bien sûr, il y a beaucoup de choses qui ont été faites et qui sont toujours en train d'être faites dans l'enseignement, que ce soit au niveau du secondaire ou au niveau du supérieur. Mais moi j'aurais aimé qu'on aille aux assises générales du système éducatif pour voir quels sont nos besoins, quelles sont les difficultés et comment on peut trouver, comment on peut aller chercher des moyens pour résoudre les problèmes, et rendre notre système éducatif beaucoup plus compétitif sur le marché de l'emploi, sur le marché national, sur le marché international. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est parce qu'ils ont détecté un problème. Voilà, ils ont détecté un problème parce qu'il y a beaucoup qui se plaignent en disant que les enfants, ils arrivent en 6e, 5e, ils n'arrivent même pas à écrire leur nom. Les gens répètent ça régulièrement. Dans plusieurs écoles publiques, les enfants en 6e, en 5e, ils n'arrivent pas à écrire leur nom. Donc, ils n'arrivent même pas à lire, à faire une très bonne lecture. Donc, c'est un problème qu'ils ont détecté. Et c'est bien la mesure qu'ils ont prise, parce qu'il y a beaucoup d'enseignants pendant longtemps qui nous ont trompés. Vous imaginez un enseignant qui maîtrise toutes les disciplines, c'est pas possible. Ben, vous imaginez, moi, il y a beaucoup de calculs rapides que vous me posez aujourd'hui. Moi, je ne pourrais même pas les répondre. Mais les enseignants, ils avaient toutes les réponses à tout. Alors que c'est après des années qu'on se rend compte, on a été trompé, on nous a menti. Donc ça, c'est une très bonne chose. Mais j'aurais souhaité qu'on aille aux réformes générales. Après celle de 1975, qu'on ait peut-être aux réformes de 2025, on parlera de tout. Il y a beaucoup de choses qui sont faites dans l'enseignement. Moi, je me dis que peut-être il n'y a pas assez de communication. Parce que je lisais un truc sur WhatsApp l'autre fois, où il y a beaucoup de choses. Ces choses-là qui ont été faites pendant plus de 10 ans, c'est beaucoup de choses. Mais pourquoi s'asseoir pour pouvoir identifier tous les problèmes en même temps? On prend une semaine, on appelle les techniciens, tous ceux-là qui s'intéressent au système éducatif, les partenaires techniques et financiers, pour dire voilà nos problèmes, aidez-nous à trouver des solutions. En France, ça se fait pratiquement trois ans, je pense en France, chaque ministre vient avec ses réformes. Et ces réformes, ça prend en compte tous les problèmes et tous les secteurs du système éducatif. Et là, je pense que ça va aller. Maintenant, la deuxième chose, peut-être on va en parler. Moi, j'ai vu un peu ce qu'on a fait avec les filles. On a aidé avec le président du conseil, on a aidé.
On va en parler.
Donc, on va revenir à ce niveau-là. Mais moi, j'aurais aimé qu'on aille aux réformes beaucoup plus globales.
Ben oui, l'homme d'Abeda, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui, voilà, on est en train alors de parler de l'école togolaise. On parle même d'ailleurs de l'école de la République. C'est le thème approprié surtout au ministre alors des enseignements primaires et secondaires. Quand on prend cette réforme qui est introduite aujourd'hui dans l'école togolaise, comment vous appréciez cela?
Non, oui, je pense que c'est une bonne chose qui est en train de se faire. Mes collègues l'ont déjà dit, mais il va falloir faire plus, c'est une bonne chose, mais c'est insuffisant. Il va falloir faire plus. Par exemple, le cadre de vie aujourd'hui, c'est la technologie. Est-ce qu'on a introduit la technologie? Est-ce que les écoles sont bien en état pour que les enfants puissent se familiariser avec les nouvelles technologies? Pour que ils ont parlé de la science et de la littérature. Il n'y a pas que la science et la littérature, il y a les arts. Combien de personnes sortent et vivent de la science? Il y a aussi des gens qui sortent, qui vivent des arts, qui vivent de la musique, qui vivent du sport. Vous savez, on voit que dans d'autres pays, ces genres de disciplines font partie du cursus scolaire. En plus, le côté panafricain. On sait que les Occidentaux, quand ils avaient eu la chance de nous coloniser, ils ont mis des contenus qui les avantagent, des contenus qui ne forment pas vraiment, véritablement, à nous prendre en charge. Les contenus, les livres, on nous a dit de lire Kamara Lai au lieu de Aimé Césaire. Tout ça, là, c'était fait à dessein pour que nous ne soyons pas vraiment des hommes qui regardent, courageux, qui regardent vers l'avenir. Donc, il va falloir aussi travailler sur le contenu. Et voilà les trucs là que moi j'ai voulu dire, sans oublier qu'ils ont aussi essayé sur d'autres, dans d'autres cycles, de parler de la corruption. Donc c'est de bonnes réformes, mais il faut aller à l'essentiel.
Véritablement, vous pensez que ce n'est pas l'essentiel?
Non, véritablement, d'abord le cadre d'apprentissage, les nouvelles technologies qui sont d'actualité. Ce n'est pas la science qu'on va encore écrire 1+1, faire les calculs mentaux. Il faut des petits laboratoires où les enfants là déjà à l'école primaire puissent essayer. Mais quand on fait de ces genres de réformes, par exemple, on a fait ça au lycée.
Mais il y a de nouvelles écoles
également. Oui, maintenant, quand on l'a fait au lycée, on a mis ça exclusivement au lycée scientifique pour les meilleurs de la classe. Mais ce n'est pas toujours les meilleurs de la classe qui deviennent des scientifiques. Vous savez, et il y a le grand scientifique français qui a parlé de microbiologie beaucoup là. Il n'était pas parmi les premiers au CP1, mais il a fini parmi les premiers. Et après, donc, quand on crée quelque chose de nouveau, quelque chose d'intéressant, et puis on dit, voilà, il faut réserver ça à telle caste. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Comme l'a dit Firmin, il va falloir aller à un truc global et surtout panafricaniser les choses.
D'accord. Oui, jamais, c'est vrai que c'est dans ce contexte-là justement que le gouvernement, déjà avec un projet sous-régional bien sûr, est arrivé à accorder des fournitures scolaires ou des, justement des kits scolaires aux filles. Aux filles, plus de pratiquement plus de 100 000 filles ont bénéficié alors de ces kits scolaires. Là aussi, on pourra saluer cet acte.
Oui, il faut saluer ce acte. Et ça, c'est ça dans la ligne hein, de la politique du président du Conseil aujourd'hui, qui veut vraiment assurer la promotion de la femme, du développement de la femme depuis le début. On ne parle pas côté sanitaire, tout ce qu'il y a eu comme projet au programme Ouézou et tout ça. Et aujourd'hui, on voit que ça se fait à l'école. On a vu au niveau de la politique sur les nominations, la promotion de la femme, les lois sur la parité et tout ça. Mais il faut aller prendre la racine à la base. C'est qu'il faut pouvoir former des jeunes filles capables de pouvoir contribuer effectivement au développement du pays. Et donc, ce projet avec des instituts internationaux vise donc à doter 100 000 jeunes filles de kits scolaires dans 800 localités qui ont été répertoriées à travers le territoire. C'est vraiment une très bonne chose. Mais ce qu'on ne dit pas assez, je pense que le ministère de l'enseignement primaire et secondaire ainsi que le ministère de l'enseignement technique ne communique pas beaucoup. Hein, parce que quand on parle de deux enseignants, on oublie de dire qu'en 5 ans, on a recruté 18 000 enseignants de 2020 à 2025. Et on a formé 9000 enseignants. On a construit 7000 classes et tout ça. On ne communique pas. Donc on a comme l'impression qu'on improvise. Non, ce n'est pas improvisé, c'est organisé. Il y a eu le PND qui est un peu la constitution du développement. Tout est chiffré, confirmé par les. C'est comme un. Non, rien n'est improvisé. Après, il y a eu la feuille de route qui est venu parce qu'en temps, il y a COVID.
Non, moi, je parle de l'éducation simplement.
Oui, même le PND, c'est secteur par secteur. En fait, ils savent. Ils savent combien de salles de classe ils vont construire d'ici là. Ils savent combien de localités on va électrifier d'ici. Tout est chiffré, en fait. C'est vrai que c'est là où je dis qu'on ne communique pas. C'est pas, on ne fait pas, c'est, on ne pilote pas de façon. Non. Maintenant, il faut chercher aussi des moyens pour pouvoir exécuter tout ce qui a été dit dans le PND. C'est là, il faut avoir des partenaires, il faut avoir aussi une capacité de mobiliser en interne ces ressources-là. Il faut aussi passer par des prêts et tout ce qu'on veut. Donc, pour moi, c'est fait, mais il n'y a pas beaucoup de communication. Et vous allez voir même que cette semaine, il y a eu par exemple plus de 200 élèves qui ont été récompensés par des ordinateurs, un certain nombre de choses, parmi les meilleurs élèves du Togo. Oui. Voilà, il y a eu au côté enseignement technique, chaque année ils font la semaine de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, les meilleurs élèves qui créent certaines choses. On expose, on prime, il y a une cinquantaine qui sont en formation, je crois que ça va finir.
Il y a même la semaine de l'innovation.
Voilà. Et donc, on veut les former à créer même leur entreprise à partir déjà de ce qu'ils ont inventé dans le lycée technique. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Ce n'est pas visible, il n'y a pas une grande communication. Mais je crois qu'on en a besoin. J'étais heureux la dernière fois d'écouter monsieur qui est venu parler des IFAD ici. Mmh. Et à la fin, je lui ai demandé, mais pour des gens comme nous, par exemple, qui n'avons pas le temps d'aller faire un an et former. Il me dit qu'il y a des possibilités de se former, 3 mois et tout ça. C'est extraordinaire. Donc, je crois qu'il faut que le gouvernement communique beaucoup plus. Et on a comme l'impression que les choses se font comme il y a 20 ans, 30 ans, mais il y a beaucoup de changements et il faut communiquer dessus. Maintenant, c'est aux parents aussi d'être au courant de ce qui se fait, parce que ce sont les parents aussi qui décident aujourd'hui où ils vont amener les enfants. Il y a très peu d'enfants qui savent s'orienter. Il y a une dernière réunion la semaine passée avec des jeunes à l'hôtel Sarakawa où on les a associés à la prise de décision. Je crois que là aussi, c'est assez important. Et toutes ces initiatives-là, à mon avis, vont participer à régler les problèmes. Il le disait tout à l'heure, nous sommes rentrés dans des systèmes où les colons nous ont formés à faire certaines choses. Aujourd'hui, l'Afrique a ses propres besoins. L'Afrique aussi a plus ou moins ses propres moyens pour pouvoir aller vers ce qu'elle recherche pour elle-même, ce qu'on cherche pour notre jeunesse. Et je crois que toutes ces initiatives sont à saluer. On demande au gouvernement d'en faire plus, hein, parce que les besoins aussi sont énormes.
Oui, Gabin, c'est vrai que dans cette opération, hein, d'aucuns se disent, mais comment se fait-il que c'est les filles qui sont plus concernées et que est-ce que quand on parle alors des défavorisés, des démunis, est-ce qu'il n'y a pas les garçons également qui en font partie?
Ouais, finalement, j'ai l'impression comme si il y a que des filles dans ce pays. Et c'est un crime aujourd'hui d'être garçon ou bien d'être parent de garçon. Tout est donné aux femmes, en fait. C'est ça le problème. Parce que même professionnellement, si tu rentres dans certaines structures, même pour des recrutements, les femmes sont favorisées sur un certain nombre de choses. Et moi, je me pose beaucoup de questions. Est-ce qu'on n'est pas en train de créer des frustrés? Parce qu'aujourd'hui, bon, les gens se disent on est délaissé, il n'y a que les filles qui sont promues et tout. À chaque moment, c'est femme. Tu veux le journal de 20h, promotion de la femme. Oh, les femmes ont déjà tout. Les femmes aujourd'hui au Togo ont tout. Il y a eu cette politique-là pendant 20 ans.
Vous pensez que les femmes ont tout?
Les femmes ont tout aujourd'hui. Parce qu'il y a eu cette politique-là pendant 20 ans. Les femmes ont occupé tous les postes de responsabilité dans ce pays, la primature en dehors de la présidente de la République. Mais tous les postes juteux ont été occupés par les femmes. Donc aujourd'hui, quel est le résultat? Je pense qu'il faut aller beaucoup plus sur la promotion du mérite. Que tu sois garçon ou femme, si tu as le mérite, on te promeut. C'est ça un peu. Vous voyez, donc la fois dernière, bon, j'ai suivi la ministre Ablamba Johnson qui distribuait les cadeaux sous le haut patronat du président du conseil. Et ça aussi, à un moment, il faut arrêter. Hein? J'aurais aimé qu'on donne ça peut-être à une ONG qui va distribuer cela. Je pense que c'est mieux que de dire que non, aujourd'hui, en 2025, le président du conseil se résume à quelqu'un qui est en train de distribuer des cahiers, des kits scolaires à des enfants pour aller à l'école. Ce n'est pas du tout bien pour l'image même du pays, pour l'image du
PC. Mais est-ce que ça ne veut pas dire que l'école togolaise lui tienne à cœur?
Mais l'école, on sait très bien que l'école togolaise lui tient à cœur, mais lui, il est là pour mettre les conditions en place pour tout le monde. On ne peut pas dire que non, le président du conseil est en train de distribuer. Encore que la communication faite autour, c'est ça qui pose problème. Parce qu'on dit que c'est un projet de la Banque mondiale qui existe depuis belle lurette et même qui synchronise pratiquement l'Afrique de l'Ouest. Vous voyez un peu? Donc, c'est aujourd'hui, parce que bon, hier j'ai suivi M. Zankpe qui était intervenu lors de l'émission, qui disait que non, c'était à 50 000 et que c'est le PC qui a aidé à porter ça à 100 000. Mais il faut bien communiquer autour pour qu'on ne dise pas que c'est le PC qui a distribué les kits scolaires. C'est un projet de la Banque mondiale. Ça veut dire que c'est le nom du Togo qui a été porté là. C'est vrai que c'est le PC qui est à la tête du pays. Mais moi, je ne veux pas qu'on dise que celui-là qui dirige mon pays, il distribue des kits scolaires pour des enfants. Non.
D'accord.
Sa tâche, c'est beaucoup plus aller au-delà. Prochainement, ce sont des bonnes actions, hein. Parce que les enfants togolais aient des fournitures pour aller à l'école, c'est une très bonne chose. Mais prochainement, qu'on ne rabaisse pas quand même le nom du PC à ce niveau-là. Parce que moi, c'est offensant. C'est offensant.
D'accord.
Et que prochainement, pensons plutôt au mérite. D'accord. Ne pensons pas juste femme. Mais finalement, nous les hommes, là, nous sommes des frustrés.
D'accord, ok, merci. Je comprends que vous êtes frustrés. Oui, Firmé. Aujourd'hui, justement, on parle plus d'inclusion, mais au même moment, on privilégie plus les femmes. Est-ce qu'on dira que c'est... on dira tout simplement que c'est une discrimination positive?
Ouais, elle est positive, même si Gabin est frustré, elle est positive.
Il n'y a pas de discrimination positive.
Ouais, vous savez, quand vous allez à l'hôpital aujourd'hui, vous voyez, le taux de naissance par rapport aux femmes, c'est énorme. Il y a plus de femmes qui naissent. Donc, vous voyez, donc c'est une masse qui arrive. Donc, pourquoi ne pas déjà avoir une politique par rapport à cette masse, favoriser cette masse? Donc, quand c'est beaucoup, c'est difficile pour les parents, donc il faut soutenir la masse. Moi, je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas de problème. Vous savez, le Togo fait quelque chose d'extraordinaire. Quand on parle de promotion de la femme, dans l'histoire du monde, est-ce que vous avez déjà vu une secrétaire générale de la présidence de la République d'un État? Qui est une femme secrétaire générale. Le poste là, comme vous voyez, ce poste, ça a toujours été confié aux hommes. Même en France, on parle de droits de l'homme et tout ça. Mais c'est le Togo qui a fait l'exception en confiant ce poste là à une dame. C'est extraordinaire. Secrétaire générale de la présidence de la République, Sandra Johnson, c'est une première au Togo. Donc, sur ce point, simplement, moi je peux dire, les femmes togolaises se battent. Vous imaginez, dans l'histoire du Togo, vous avez vu, on s'est battu, mais il y a. La primature a été confiée une fois à une dame, Madame Dogbe, C'est la dernière première ministre, si on peut le dire, sous la 4e République. Donc les femmes togolaises se battent.
Présidente de l'Assemblée.
Présidente de l'Assemblée. Regardez même, quand on parle de ministre des armées, le Togo a fait l'exception avant l'Allemagne. Le poste de ministre de la Défense a été confié à une dame. Ici, c'était sous la 4e République. Avant que l'Allemagne n'emboîte le pas au Togo. Donc, ça veut dire que les femmes togolaises se battent. Donc, quand vous voyez des gens comme ça qui se battent, il faut les encourager depuis le début. Celles-là, elles n'avaient peut-être pas eu assez. Peut-être elles ont eu des conditions un peu difficiles, mais elles ont tenu à évoluer. Mais avec les conditions qui sont un peu difficiles, avec la démographie qui devient régulièrement importante, avec beaucoup de naissances, donc c'est maintenant il faut encourager. Quand on dit, il ne faut pas dire... Moi, il y a des choses, on le disait quand on était jeune, mais j'ai commencé par changer. Vous savez, quand on dit sous le haut patronage et tout ça, mais ça se dit en France, hein. On dit, c'est avec la vision éclairée de manière Macron, ça se dit. Moi, je veux que c'était seulement une exclusivité togolaise. Ça se dit en France. C'est grâce au programme, grâce à l'intelligence, à la vision éclairée du président Macron. Ça se dit. Mais c'est lui le patron. C'est sa vision. Vous imaginez, c'est sa vision. Quand vous avez un PC, quand vous avez un président du conseil, qui, vous savez, le président du conseil peut se dire, OK, par rapport à ce que la Banque mondiale donne, donc nous, on n'ajoute plus rien. Mais regardez, vous savez combien ça coûte? 602 millions de francs CFA.
On parle de 603 millions.
600, oui, 603 millions. Donc, c'est beaucoup. Et puis, ce n'est pas un acte gratuit. Bon, moi, je parle beaucoup de la citoyenneté. Quand on parle de citoyenneté, il y a trois valeurs. Il y a le civisme, il y a la civilité, et il y a la solidarité. Et de plus en plus, le Togo affiche une certaine solidarité vis-à-vis des couches les plus vulnérables. Donc, sur ce point, il faut féliciter.
Et l'homme, votre appréciation de cette opération?
Oui, je pense que c'est une bonne chose de privilégier les femmes, puisque moi je viens du milieu associatif, mais il ne faut pas exagérer, la République s'est féminisée, mais on n'a pas vu des résultats. Même quand nos enfants étaient tombés dans la lagune de Baie, on ne les a pas vus crier en tant que femmes, comme nos mamans le font chaque fois quand on a des problèmes. La seconde chose, la communication, on fait comme si c'est le président de la République ou bien nouvellement PC qui donne les choses, que c'est l'aumône, c'est pas bien. Le monde évolue et il faut s'adapter au temps. Prendre encore les gens comme dans l'ancien temps et communiquer pour les tromper. Les gens s'en moquent quand vous voyez sur les réseaux sociaux, tout le monde a compris. Donc il faut que ceux qui communiquent aujourd'hui, qui sont de grands intellectuels au niveau de la présidence ou bien au niveau du gouvernement, qui ne tombent plus dans ces petits tests et qu'ils communiquent juste. Quand c'est le président qui a fait, ce que le président a fait, qu'on le dise, le reste, voilà. Maintenant, au niveau du financement, ça pose problème. Que le Togo soit encore astreint à aller demander à chaque année de l'aide avant de donner des cahiers, des fournitures scolaires à nos enfants. Qu'est-ce qu'on fait nous-mêmes?
Ah, mais c'est un projet sur régional.
Quand on parle de la santé, s'il vous plaît, quand on parle de la santé, don extérieur. Quand on parle de l'éducation, don extérieur. Même pour faire un projet où on veut enseigner les bonnes valeurs, on veut travailler contre la corruption, on dit don extérieur. On parle de l'école, don extérieur. Football, don extérieur. Tous ces dons extérieurs. Qu'est-ce que le Togo fait? Monsieur Germain Poli l'a dit, il faut pouvoir mobiliser les ressources en interne. Il faut pouvoir mobiliser les ressources en interne pour que nous puissions être souverains. Vous savez, quand on parle de dons, vous savez que les pays africains ne sont pas souverains en termes de programmes scolaires. Si tu mets des livres qui parlent de Kunta Kinte, qui essayent de relater la vérité de l'esclavage, l'UNICEF ne va pas te financer. Donc, c'est la main qui reçoit est la main qui est toujours en bas. Hein. Donc, il va falloir qu'à un certain moment, nous puissions nous prendre en charge nous-mêmes en gérant bien nos ressources. Nous en avons assez. Les ressources minières, le port. Il y a plusieurs rapports qui ont dit que le port autonome ne donne qu'un petit milliard par an, alors que ça ne devait pas être comme ça. Donc, il va falloir qu'on puisse se prendre en charge nous-mêmes, être souverain. Sur un pan au moins, on est souverain dans rien. Tout ce qu'on doit faire ici, on doit parler de PTF, partenaire technique et financier. Ah, c'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il faut panafricaniser le contenu. Il va falloir que nous-mêmes, le bon réflexe, je vais terminer par là. Quand on était dans le monde associatif, quand tu vas à la préfecture ou bien dans une agence gouvernementale pour demander de l'aide, pour faire telle chose, on te dit, mais est-ce que tu as un partenaire étranger? Quand tu vas à la mairie pour faire un petit projet dans ton quartier, on dit, il faut aller chercher des partenaires étrangers. Non, il faut qu'on sorte de ce genre de choses, quoi. Donc, c'est une bonne chose de soutenir les femmes, et la jeune fille en particulier. C'est une bonne chose de donner des kits scolaires. Encore que, deux personnes, en tant que président de CDQSADI, président du comité de développement de mon quartier, je suis démissionnaire, bien sûr, partant, il n'y a pas de problème, mais deux personnes m'ont appelé pour me dire, président, est-ce que tu n'as pas de kit scolaire? Malgré qu'on dise que le PC a distribué des milliers à 800 personnes, 800 localités, les gens sont encore demandeurs. Et des parents qui sont encore demandeurs, je leur ai dit, non, je n'ai pas d'informations, maintenant ton activité, c'est comment? Il m'a dit non, le pays c'est gâté, c'est on a fait.
Le besoin
est toujours dit,
là. Le besoin est toujours là. Merci, ce confrère. Et nous allons maintenant donner la parole à nos auditeurs et sur le 90 86 35 35 91 36 63 75 et également sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57 puisqu'il est déjà midi. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
93.5 Canal FM. Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75 et aussi sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Là, vous avez la possibilité de nous écrire. Nous avons notre premier auditeur en ligne. Allô?
Bonjour.
Oui, bonjour. Comment vous allez?
Ça va très bien.
C'est Monsieur Gado.
Lui-même.
D'accord, allez-y.
Ma question, c'est pour Monsieur Turmet. Je l'en prie de nous dire si le Togo exporte des ressources. Pétrole, or, etc. Et le port, combien le port nous fait par mois? Parce que le Bénin a donné presque 3 milliards pour le football, le Togo n'a même pas donné 3 milliards. Vous voyez que c'est triste. Monsieur Kimet, si vous n'avez pas la réponse maintenant, la semaine prochaine, franchement, c'est très important pour les Togolais. Merci, bonne journée.
Merci, Monsieur Gado, pour votre intervention 90 86 35 35 91 36 63 75. Vous pouvez nous écrire aussi sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour, Monsieur Pascal.
C'est Monsieur Mawena.
Oui, Monsieur Pascal, comment vous allez?
Ça va, pas la grâce. Allez-y.
Je salue le plateau.
Le plateau aussi vous salue.
Et surtout les deux avocats défenseurs du régime. Monsieur Pascal.
Monsieur Mawena.
Oui.
Il n'y a personne quand même qui soit ici hein, sur ce plateau pour être avocat du régime.
Ok, j'ai compris. Mais c'est pas ça. Moi, quand on parle d'histoire du fournitif scolaire, moi, ça me fait honte, quoi. Ça me fait honte. Je vous en prie, nous parlons plus de ça, quoi. C'est honteux, quoi. Le Misco, là, c'est où? Ils ont détruit le Misco, ils ont détourné tout. Le Misco qu'on utilisait avant, quand nous on était enfants. C'est ça que vous êtes là, on achetait les cahiers. C'est où? Ils ont dilapidé le fond là, ils ont partagé ça. Maintenant, ils font des politiques pour distribuer les trucs. Ça, c'est honteux, quoi. À l'heure, nous sommes, c'est honteux. Mais c'est pas ça. Moi, je veux dire à M. Fénet, nous avons les réseaux sociaux actuellement. Où est-ce qu'on a, en France, on parle de son excellence sur la magnanimité? Où est-ce qu'il a entendu ça?
Merci, monsieur Mawena, pour votre intervention 90 86 35 35. Allô?
Allô?
Bonjour.
Oui, mon frère Pascal, bonjour.
Oui, comment vous allez?
Je vais bien, je suis Mathieu de Yokoi.
Ah, Mathieu, depuis Yokoi, allez-y.
Merci. Par rapport à l'équité genre, oui, je dirais que c'est une formule qui n'arrange pas nous qui sommes en voie de sous-développement. Il ne faut pas qu'on imite, comme M. Firmin le disait, l'Allemagne, pourquoi non? Parce que quand la femme se développe, en réalité, ça n'impacte pas nos ménages. Je donne un exemple. Quand un homme parvient, il marie une femme qui a le doctorat, il fait tous ses besoins. Mais, quand une femme est celle qui s'occupe de la famille, celle qui a un travail, elle ne va pas accepter d'épouser un monsieur qui n'a rien, elle s'occupe de ses besoins. Et puis, elle s'occupe même des besoins de la famille de l'homme. L'homme va jusqu'à faire tout ça. Donc, je prie le gouvernement de tenir compte de ça. Le développement de la femme, ça ne fait pas développer nos foyers. C'est plutôt le contraire. Merci.
Merci Mathieu pour votre intervention. 90 86 35 35 91 36 63 75. C'est sur ces deux numéros que vous pouvez réagir. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour.
C'est monsieur?
Cyprien.
Monsieur Cyprien, allez-y. Oui.
Bon, monsieur Pascal, bon, c'est comme si sur ce projet Suède financé par la Banque mondiale, les collègues ne se sont pas eux-mêmes assez documentés. Ce projet Suède a pris fin au Bénin au mois de mars-avril 2025. Ça a duré 2 ans. Et chacun choisit ce qu'il faut faire pour, avec ce fonds-là. Le Bénin a voulu financer l'argent de poche au quotidien pour les filles, pour le maintien à l'école. Ils n'ont pas distribué de fournitures. Le deuxième volet, c'était de leur faire des sketchs, un thème sur la grossesse précoce, hein, la lutte pour la grossesse précoce dans les écoles. Et voilà, comme je le dis, excusez-moi, bon, je m'emballe un peu parce que j'ai été trop nerveux de vous entendre. Voilà un tout petit peu. Maintenant, j'apprécie beaucoup l'analyse de M. Adjao par rapport à la pertinence de tout ce qu'il a dit. Ah, M. Firmin, je ne sais pas où il s'est beaucoup baladé dans le monde en parlant de secrétaire général de la présidence qu'il n'y a jamais eu en France. Comparez tout simplement une femme qui a été maire à Paris. Qu'est-ce que vous pouvez comparer par rapport à une secrétaire générale d'une présidence? Hein? Vraiment, je suis désolé, vous dites des choses, malheureusement, nous ne sommes pas sur le plateau avec vous. On a été, nous, à l'école, en Europe, les présidents de conseils régionaux sont des juristes, on nous a appris, nous connaissons beaucoup de choses, mais quand vous venez, vous dites des choses aux gens, ne pensez pas que certains peuvent prendre ça pour la vérité. Mais vous parlez avec un ton comme si vous vivez, vous avez vécu la chose. Non, 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 faut pas faire ça, faut pas faire ça. Hein, faut pas faire ça, monsieur Firmin.
Mais merci, hein? Merci Cyprien. Merci pour votre intervention. 90 86 35 35 91 36 63 75. Allô?
Canal FM, bonjour.
Bonjour, Céline, comment vous allez?
Le messager de l'amour, je me porte très bien.
Allez-y.
C'est par rapport au kit scolaire. Je voulais rappeler au CP des kits scolaires. Et à quelques jours de la rentrée scolaire peut avoir des impacts positifs et négatifs sur les élèves. Il est important de planifier à l'avance et de prendre des mesures pour minimiser les impacts négatifs et aider les élèves à se préparer pour la rentrée scolaire. Et des cursus scolaires en milieu de vacances peut être une excellente façon de permettre aux élèves de se ressourcer et de se préparer pour la suite de l'année scolaire, à condition de planifier à l'avance et de prendre des mesures pour minimiser les impacts négatifs.
D'accord, merci. Oui, merci. 90 86 35 35 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au club. Bonjour à vous au plateau. J'aimerais demander à savoir si la distribution des kits scolaires se faisait par avant. Sinon, alors c'est pour polir l'image du PC par rapport à la crise sociopolitique que nous traversons actuellement. C'est Noël qui nous écrit depuis Nukafu. 90 86 35 35 91 36 63 75. Allô?
Allô, monsieur Pascal.
Bonjour.
Bonjour, c'est Natima.
Ah, Natima.
Oui.
Allez-y.
Je salue le plateau.
Le plateau aussi vous salue.
Merci beaucoup. J'ai dit que ce que vous avez dit, les dons des cahiers, est-ce que nous-mêmes, au Togo, là, quand les élections passées, qu'est-ce que les gens ont fait? Pour faire les élections, on se finançait, non? C'est des milliards. Les milliards là sont partis où on va aller chercher l'argent quelque part pour venir dire que on donne les cahiers. Quelqu'un qui donne, ben, le Togo est où? Nos milliards là sont où? Comme l'autre l'a dit, il y avait là le discours. C'est là où tout le monde cherchait les cahiers, à moins de coût. Mais on a de la brûlée, tout ça là. Ils sont pillés le pays. Et le pays est laissé comme ça. Bon, merci, bonne émission.
Merci, Natima, pour votre intervention. 90 86 35 35 91 36 63 75. Les deux numéros, bien sûr, sur lesquels vous pouvez réagir. Vous pouvez nous écrire aussi sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Allô?
Oui.
Bonjour.
Bonjour, mon grand-père.
Bonjour, c'est Benoît.
Oui, grand-père.
Benoît Dagoué, allez-y.
Ok. Bon, je ne vais pas trop parler. Bon, on dit que le chef de l'État, ils ont construit 7400 écoles ou bien classes. Si je prends le chiffre, 7400, je divise ça 117 communes, je trouve 63 classes ou bien écoles. Que chacun se promène dans sa commune pour me recenser les classes qu'on dit que le chef de l'État a fait construire. Merci et bonne journée.
Merci Benoît pour votre intervention. 90 86 37 35 91 36 63 75. Allô.
Pascal, bonjour.
Bonjour Patrick, comment vous allez?
Allez, chez vous.
Ça va, par la grâce de Dieu.
D'accord, je salue les autres aussi là-bas. Concernant la promotion de la femme, je pense que M. Adjaro a fait un développement correct. Ce qu'on ne peut pas comprendre. D'abord, nous tous nous savons qu'il y a une différence entre quelqu'un qui est nommé et quelqu'un qui est élu. Dites-moi, est-ce que ces femmes qui sont passées par la présidence de l'Assemblée, la primature, que sais-je encore, est-ce que c'est par un concours que ces femmes sont arrivées là? Non. Mais la dame qui est au niveau de d'Isolé là-bas, ou bien à Tortilla là-bas, il y a les mêmes diplômes. Pourquoi l'autre n'est pas là-bas? C'est parce que celles qui ont cette chance d'être là-bas, c'est leur qui a sonné. Pour pas que les gens disent que voilà, on a fait trop de promotion sur la danse féminine là. C'est ça, M. Adjaro a dit. Mais pourquoi ne pas promouvoir le mérite comme il vient de le dire? Je suis partant. C'est-à-dire quelqu'un qui mérite cette place. Faut pas qu'on dise que voilà, que c'est là. Non, ce n'est pas un concours. Ce n'est pas un concours qu'on lance et que ces femmes-là sont arrivées là-bas. Non. Maintenant, M. Firmin, je suis désolé, je pense que beaucoup le disent, mais ce n'est pas moi. En tout cas, c'est la première fois que je veux parler directement comme ça, puisque je n'ai pas attaqué les journalistes. Je connais les principes de cette émission. Mais c'est vrai, quand vous dites qu'en France, on nous dit sous l'impulsion du président de l'Union, ça ne se dit pas comme ça, M. Firmin. Il ne faut pas. C'est que nous, on connaît un peu. Nous sommes âgés. Peut-être que je vous dépasse même. Il ne faut pas que. Quand il y a un débat comme ça, comme Pascal le dit bien, restons. Dans la ligne du débat pour que tout le monde puisse en tirer quelque chose dedans. Parce que j'ai l'habitude de dire, cette émission, c'est une émission, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Donc, on doit se dire une vérité dans l'amiable. D'accord. Voilà, bonne émission.
Merci beaucoup, Patrick. Justement, le principe est resté intact, c'est-à-dire que c'est un rendez-vous alors de donner, de recevoir. Et c'est pour cela même, d'ailleurs, que nous vous donnons aussi la parole. Après que nous ayons fait le débat en studio, nous vous donnons la parole pour que vous vous exprimez aussi sur des sujets débattus ici au Club de la Presse, 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 115. Allô?
Pascal, bonjour.
Bonjour, Basile. Comment vous allez?
Ah, tout relèvement.
D'accord, allez-y.
Non, comme je le disais hier, Omar Radio, comme je le disais hier, le Togolais n'a pas besoin de faire dont vous parlez. Tout ce qu'on demande à celui qui dirige ce pays, c'est de ne pas avoir cette envie démesurément exagérée de nous faire souffrir. Rien n'est prenable pour le citoyen lambda. Il suffisait qu'il fasse comme les autres dans les autres pays aux alentours, comme ça, et puis le Togolais même peut se prendre valablement en charge. Que c'est le mécénat ou bien ce que je ne sais quoi, on n'en a pas tellement besoin. Et donc, c'est ça. Je ne sais pas c'est quoi son problème. Le Togolais a fait quoi pour mériter ça? Merci à vous.
Merci Basile pour votre intervention. Bonjour Pascal. La nouvelle réforme de Dodi Kokoroko, oui. Quelle est l'aide de l'État apportée aux écoles privées? Les écoles privées vont-elles aussi mettre les deux enseignants dans les classes? Déjà, ces écoles privées ont des difficultés financières pour payer les enseignants. L'État a-t-il vu ces paramètres et échangé avec ces écoles privées? Ce sont des questions, bien sûr, alors d'Almeida qui nous écoute, bien sûr. 90, 86, 35, 35. Kiki, nous avons encore quelques minutes pour recevoir le dernier auditeur. Et là, il est en ligne.
Allô. Bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va.
D'accord. C'est Didier.
Oui, Didier.
Ah, mais Didier, ça fait un moment.
Ouais, ouais, ça va. Ça va, c'est là.
D'accord, allez-y.
Oui, mais moi, je voulais répondre à Jubin. Il peut me dire quand est-ce que vous, en France, un ministre qui vient dire que sur l'institution de Macron, c'est ridicule. Nous tous, nous connaissons la même chose la France. Peut-être lui n'en a même pas fait. On a jamais, moi, j'ai jamais écouté quelqu'un, ministre, comme il a crédit ou bien ministre de son État, vient tenir gardement que c'est sur l'institution du chef de l'État. C'est ridicule, mais ça ne nomme même pas la personne. C'est ce que je voulais lui répondre là. Peut-être lui n'a même pas fait l'Europe, là, il vient me raconter des histoires ici.
Merci, merci Didier. Allez, merci. Je pense que c'est lui le dernier auditeur. Qui sait bien ça? C'est lui le dernier auditeur alors pour le compte alors de cette émission. C'est vrai, chacun a sa manière d'analyser l'actualité. Ça, c'est important. Et nous aimons toujours le faire dans la courtoisie et dans le respect mutuel. C'est très important aussi. Nous revenons en plateau, chers confrères, pour faire un dernier tour de table avant de mettre fin à l'émission. Oui, Firmin, vous demandez plutôt la parole. Parce que vous avez été à maître prise, interpellé.
Ouais, je suis très heureux. Quand les gens réagissent comme ça, je suis très heureux. Ça veut dire que nous sommes en démocratie. Et c'est normal que les gens critiquent tout ce que je dis. Mais les gens disent qu'ils ont fait l'Europe, mais ils ne sont pas des analystes. Est-ce qu'ils peuvent me citer tous les secrétaires généraux de la présidence de la République française? Moi, je peux les citer. Est-ce qu'ils peuvent me citer tous les secrétaires généraux de la Maison Blanche? Moi, je peux les citer. Donc, est-ce qu'ils peuvent me citer, est-ce qu'ils peuvent avoir tous les ministres qui ont eu à dire sous l'impulsion du président Hollande ou le président Macron? Moi, je peux les citer. Moi, je suis l'actualité française. C'est ce que moi, je fais. Je suis l'actualité américaine. Ils peuvent avoir fait l'Europe, ils peuvent avoir fait le tour du monde. Mais moi, je suis journaliste, je suis chroniqueur politique. Donc, moi, je sais ce que je fais. Mais je ne suis pas venu ici pour tromper les gens. Je n'ai aucun intérêt. Quel président, quel ministre ne va pas dire sous l'impulsion ou sous la vision du président, de notre président? C'est la chose. Qu'est-ce qu'il y a de ridicule dans ça? Les gens disent ça en Europe. Donc, moi, ce que moi je déplore, c'est que nous prenons le Togo comme un pays particulier. C'est-à-dire que quand le Togo fait quelque chose, on dit que non, le Togo ne peut pas faire. Ici, on distribue des kits scolaires. Ailleurs, on distribue de la nourriture. En Italie, on a mis en place un supermarché où les gens viennent s'approvisionner. Où on distribue de la nourriture comme cela. Mais quand on dit qu'il faut que tout le monde se prenne en charge, mais en France, cette année, on a ciblé au moins 10 millions de familles, 4 à 10 millions de familles, où chacun aura de l'argent pour pouvoir gérer les fournitures scolaires. Moi, je suis dans l'actualité française tous les jours. Mais le Togo ne fait rien de particulier. Le Togo, lui, là, a viré sa verre. Où lui, il s'occupe beaucoup plus des fournitures. Ailleurs, on donne de l'argent pour aller s'approvisionner en sac, cahier, règles, tout ça. Et c'est en France. Là, c'est la cinquième puissance du monde. Le Togo ne fait rien de particulier. La troisième chose que je voudrais faire observer, moi, je parle de là où le Togo a innové. Quand je parle du secrétaire général de la présidence de la République, quand vous voyez la liste des secrétaires généraux de la présidence de l'Élysée, vous ne verrez jamais une femme dedans. Quand vous faites la même liste au niveau de la Maison Blanche, vous ne verrez jamais une femme. Oh, c'est un poste stratégique. C'est un poste stratégique. Je dis, mais quand le Togo se donne le courage de nommer une femme à la tête du secrétaire général de la présidence de la République ou de la présidence du Conseil, moi je me dis, mais c'est quelque chose qu'il faut saluer. Parce que ailleurs, ça ne s'est jamais passé comme ça. Quand vous voyez la sous-région, est-ce que le ministère de la Défense a été une fois confié à une femme? C'est jamais. La France l'a fait avec Michel Alliomari, Jacques Chirac l'a fait, Sarkozy l'a fait. Mais en Allemagne, cela ne s'est jamais produit. D'accord. Mais c'est tout récemment, avant ce gouvernement-là, qu'on a confié le ministère de la Défense à une femme. D'accord. Donc le Togo innove, le Togo ne fait rien de particulier. Vous pouvez avoir voyagé et tout ça. Mais moi, je suis chroniqueur politique.
D'accord, merci. Oui, Germain.
Oui, mais non, je crois qu'on ne va pas sur des femmes. J'aimerais revenir sur la promotion des femmes. Hein. Quand j'ai écouté Gabin tout à l'heure, Gabin lui-même, il est très gentil envers les filles, plus que les garçons. Il donne plus. Donc ça, c'est naturel. Mais pendant longtemps, il faut reconnaître que les femmes ont été victimes d'injustice. Voilà que depuis quelques années, on veut corriger un peu, les gens crient. Mais faites attention, moi je suis allez-y vers la lycée Agouet, Nivet, demander qui sont les meilleurs à l'école. Pour les examens, on serait surpris. Les femmes prennent les premières places. Contrairement à ce qu'on dit, le mérite, les femmes sont aussi méritantes et mieux que nous. Hein. D'abord, Firmin l'a dit, elles sont plus nombreuses. Elles sont déjà victimes d'injustice. Aujourd'hui, on donne un tiers du gouvernement aux femmes. Les gens crient comme si elles avaient la moitié. On dit 40% de femmes aux élections. Aucun parti n'a pu le faire. Même Unir n'a pas pu présenter qu'à 40%. Mais c'est des lois internationales pour protéger les femmes. Ça n'a rien à voir avec le Togo. Le Togo, lui, fait un effort faut faire un maximum, contrairement à la mentalité africaine. On pense que la femme n'a pas droit d'être ici, là, malgré... On va à l'école avec des filles, et parfois elles travaillent même mieux que nous à l'école, mais on pense qu'on est plus intelligent qu'elles. Donc voilà, ça, je voulais revenir là-dessus. Mais, et puis, je voulais revenir sur la souveraineté. Quand on dit on aide un pays, tout ça, c'est tout à fait normal. Les Français, les Européens, mais ils sont nourris par les Américains. Ils sont sécurisés par les Américains. Il y a des incendies dans les grands pays, comme le Canada, même les sapeurs-pompiers, on les envoie de partout, même en Israël, même en Turquie. Ils prennent des sapeurs-pompiers des autres pays, mais ici, quand un sapeur-pompier du Ghana vient aider à éteindre, on crie. Oh, les sapeurs-pompiers togolais vont tout le temps au Ghana éteindre le feu. On ne le dit pas assez, mais c'est vrai. Donc, c'est tout à fait normal. Après, il faut que chaque pays compte sur lui. Mais les prêts seront normaux. Les plus riches s'endettent même plus que les plus pauvres. Mmh. Ça, c'est normal. Maintenant, il faut mobiliser en interne. Mais les partenariats, on se victimise trop, on s'accuse trop, on prend des choses comme si... Et puis, je reviens rapidement sur la solidarité. Non, mais dans des cahiers, rapidement. Mmh. Je crois que chacun d'entre nous, c'est chaud, hein, que chacun fasse l'effort d'aider avec un ou deux cahiers. Ce n'est pas à fort de le faire. Ce n'est pas aux députés ou aux politiciens de le faire.
C'est un acte de solidarité.
Ce n'est pas aux plus riches de le faire. La bière que tu prends après le club, ça peut faire un cahier pour un voisin, peut-être qu'il y a des difficultés.
Non, je
le dis parce qu'il disait qu'un de ses voisins lui a demandé. Et apprenons à le faire. Moi-même, je ne le fais pas encore, mais on a un confrère journaliste, Didier Assogua, que je profite pour saluer. Et il a fait un truc comme ça il y a 2 ans. Dans un quartier, il allait distribuer des fournitures scolaires. J'ai dit, mais il n'est pas riche. Mais il l'a fait. Ça veut dire que nous tous ici, on peut le faire. Pas acheter des tonnes de cahiers, mais un ou deux cahiers.
Je
la solidarité en ce moment,
oui,
c'est vraiment quelque chose d'important.
Merci beaucoup, Germain. Il y a même aussi un autre confrère, Titus Segla, de Radio de l'Évangile également, qui fait quelque chose de ce genre. Et je pense que c'est un appel que nous devons tous ensemble écouter. Oui, Gabin.
Oui, puisque la rentrée, c'est lundi. J'aimerais d'ores et déjà souhaiter une bonne rentrée quand même aux enfants et surtout aux parents aussi, parce que quand les enfants rentrent, ce sont aussi les parents qui font la rentrée. Hein. Et par rapport aux actes de solidarité, regardez de gauche à droite, forcément il y a quelqu'un autour de vous qui a besoin d'un petit stylo, d'un cahier, d'un sac et autres là. Et je pense que ça va pouvoir aller. Bon, moi aussi je le fais chaque année. Cette année, j'ai pu distribuer des kits scolaires avec 3 enfants.
Oh, félicitations alors.
Je le fais chaque année pratiquement, donc... sauf qu'on ne nous communique pas autour. Oui. Hein, la Bible nous interdit ça.
Non, d'accord.
Alors,
oui, je pense que, parlant de distribution de cahiers, mon rapporteur, le rapporteur de notre liste, La Voix des Sans Voix, dans le Golfe 3, s'apprêtait à distribuer des cahiers, des kits scolaires aux enfants. Malheureusement, il a été arrêté. Parce que il s'est retrouvé avec d'autres acteurs de la société civile, d'autres jeunes de la société civile. Donc, il a été arrêté. Il s'agit de Julien Komandega Kataka, qui nous a aidé à devenir conseiller régional, qui a aidé d'autres personnes sur notre liste à devenir conseiller municipal dans le Golfe 3. Il a été arrêté à la suite d'une commémoration qu'ils sont allés faire sur la tombe de Sylvanus Olympio. De retour, ils ont décidé, ceux qui avaient participé, de se retrouver en tant que jeunes venant de diverses OSC. Ils ont décidé de se retrouver pour mieux se connaître et aussi naturellement cogiter sur l'actualité politique togolaise. C'est dans ce cadre-là qu'il a été arrêté. Donc, je lui dis d'être courageux, de traverser cette épreuve avec beaucoup de sérénité. C'est un jeune non violent, toujours calme, qui parle peu mais qui travaille beaucoup. Il a eu sa licence, ça fait 6 ans qu'il est au chômage. Il se débrouille en faisant un peu de l'immobilier, agent de sécurité le soir. Vous voyez que des jeunes togolais diplômés sont obligés de devenir agents de sécurité le soir. Donc, j'appelle les autorités à regarder de plus près et à libérer les jeunes qui sont arrêtés dans le cadre des activités de la société civile.
On reviendra
la meilleure façon de, d'aider la jeunesse togolaise, c'est de les faire sortir de la précarité qu'ils aient.
On reviendra sur le sujet, notamment hein, sur cette réaction du Parlement européen sur la détention alors de Aziz Goumen. On va revenir là-dessus. Merci. Surtout la semaine prochaine. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci Germain Poli, Adjao Gabin, merci d'être passé dans cette émission. Et l'homme d'Almeida, merci d'être passé. Firmé Tekouabo, merci d'être passé. Je suis très content de ce que nous terminons cette émission avec assez de souris. Et merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à Kiki Sousa, pardon, qui a assuré la mise en onde. Jérôme Dakouti a été à la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve lundi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Vous passez un bon week-end. Au revoir.
Cette émission vous a été offerte par la bière Wachteiner, aussi nommée Sikavi, est une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribuée au Togo par la SNB. Wachteiner, la vie dorée.